Voilà donc en particulier cet épisode dit du buisson ardent, c'est vraiment l'expression consacrée qui désigne cet étrange phénomène autour duquel se noue la rencontre, l'appel de Moïse avec Dieu, un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Pour les plus anciens parmi nous, vous avez peut-être dans la mémoire le temps où nous étions église réformée, il n'y a pas si longtemps, avant d'être église unie, luthérienne et réformée, et le buisson ardent était vraiment comme le logo de l'église réformée, avec cette devise, hein, je brûle mais je ne me consume pas. Bon, c'est un temps un peu passé maintenant. Mais c'est pour dire la puissance évocatrice de ce phénomène qui intrigue Moïse, qui va causer le détour de sa vie, en quelque sorte. Alors, beaucoup de chercheurs se sont posé la question, mais est-ce que c'est possible et comment se fait-il que dans ce lieu, ce désert, il y ait un tel phénomène? Alors certains disent, mais c'est tout simplement un buisson ou un arbuste qui avait des feuilles très rougeoyantes comme ça, et on a peut-être pensé que dans la poésie du texte, on avait appelé un buisson ardent. Alors sans doute, je ne suis pas spécialiste en botaniste, vous le savez maintenant, mais on peut trouver des plantes qui ressemblent à ça. Mais il y a des scientifiques qui vont même chercher des phénomènes particuliers où, par une sorte de dégagement de gaz et avec la chaleur, il peut y avoir des flammes qui apparaissent dans certains endroits, un peu comme comment s'appelle en haut des mâts des bateaux. Vous connaissez ça, vous les marins? Les feux de Saint-Elme, voilà. Bon, bref, là aussi, je ne suis pas du tout scientifique, mais on peut peut-être expliquer ce phénomène. Mais je crois que ces explications, même si c'est très intriguant, passionnant, ça satisfait notre curiosité, surtout nous éloigne du sens du texte et empêche le texte de vraiment parler. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de savoir pourquoi ça peut arriver, c'est de regarder pourquoi ça peut nous intriguer, nous aussi, nous faire faire comme un détour, comme si on était là à côté de Moïse, à se demander quel est cet étrange phénomène et à nous laisser saisir par une parole. C'est plutôt sur un plan symbolique comme un arbre de vie, ce buisson ardent. D'ailleurs, on l'a rapproché de effectivement plusieurs représentations qui sont un peu dans beaucoup de cultures, cet arbre de vie magnifique et qui déploie ses branches. Certains aussi ont fait le rapprochement avec un objet du culte du judaïsme, un grand chandelier qui se trouvait dans le temple à Jérusalem, qui se trouvait même avant ça dans le sanctuaire, dans la tente, pendant que justement les Hébreux traversent le désert avant d'arriver au pays qui est promis. Un grand chandelier qu'on appelle la Ménorah, et dont la description est donnée dans la Bible pour qu'ils puissent la construire, avec 7 branches comme ça, avec des détails particuliers, et notamment des ornements floraux. Donc pourquoi pas trouver quelque chose qui pourra aller ensemble dans cette interpellation de la parole de Dieu, une vocation particulière, et cette présence symbolisée par un chandelier, par des lumières qui sont allumées tout au long du jour et de la nuit. Pour ma part, j'ai été frappé, évidemment un petit peu conduit par le thème que nous avons suivi, découvert avec le grand kiff, l'espérance, une respiration particulière. J'ai été frappé par l'espérance qui peut naître en Moïse. Parce que, comme je vous le disais, je me suis à un moment donné projeté comme si j'étais là un spectateur bien chanceux de l'épisode à ses côtés et de cet échange dont nous avons lu une forme de transcription, un témoignage en tout cas. Et je voulais simplement partager avec vous 4 ou 5 points par lesquels je crois nous entrons dans l'espérance avec cette révélation de Dieu. Premier sujet d'espérance, un peu comme un fil que nous tirons depuis tout à l'heure, c'est que là, au milieu de nos déserts, finalement, Moïse est allé même au-delà du désert pour aller dans la montagne, mais n'imaginez pas les pins et les alpages, hein, c'est une montagne assez aride, comme une prolongation du désert, et bien au milieu même de la rocaille et de nos déserts, la parole de Dieu arrive. La parole de Dieu s'élève depuis ce buisson. Là aussi, certains ont pensé que c'était un buisson un peu épineux. Il est vrai que c'est souvent ce qu'on trouve dans ces paysages. Et bien là, même au cœur des épines, la flamme et la lumière de la parole, de l'appel de Dieu arrive. Pas besoin de chercher, de faire tout ce qu'il faut pour installer quelque chose de doux, de soyeux, de confortable, de chaleureux. Même quand nous errons, en quelque sorte, la parole fait irruption, une parole de Dieu. Une parole d'ailleurs tout à fait particulière, c'est un deuxième sujet d'espérance, une parole de libération. L'appel que Dieu fait à Moïse, c'est pour aller emmener, aviser, emporter avec lui les Hébreux qui se trouvent plus ou moins en situation, on va dire, d'esclavage, hein, selon la représentation, il faudrait voir les degrés que ça représente, mais qui ne sont pas vraiment eux-mêmes dans ce pays d'Égypte. Et Moïse, non seulement doit aller les appeler à sa suite pour qu'ils quittent et qu'ils se dirigent vers un ailleurs, mais il doit aussi, en quelque sorte, faire cette négociation avec le responsable de cette nation, avec Pharaon. Mais c'est une parole de libération que le Seigneur fait surgir là, au milieu du désert. Voilà un deuxième sujet d'espérance. Dieu nous appelle, nous engage, oui, il y a des choses à porter, des responsabilités, mais c'est un mouvement, une dynamique de libération. Et précisément, c'est le troisième point, là où Dieu nous emmène, hors de ces déserts, c'est dans l'espérance d'une terre promise. Sa promesse nous permet de nous projeter, de ne pas rester enfermés dans ce qui nous tient enchaînés, mais de voir devant nous un chemin qui s'ouvre et un pays qui est offert, une terre promise. Une terre avec cette évocation, si vous êtes aussi gourmand que moi, ça vous a parlé, où coule le lait et le miel. Quand on commence à avoir les angines de l'hiver, on sait que le lait et le miel, c'est mieux que les épines du buisson d'acacia. Quoi qu'on fait du miel avec l'acacia. Je ferme la parenthèse parce qu'on est en train de se perdre. Au milieu même de nos déserts, une promesse qui nous mène vers la douceur. Un lieu à habiter ensemble, un lieu où fonder notre identité. Et précisément pour que cette route se fasse, voilà peut-être la plus forte évocation de l'espérance, la plus forte manifestation de la promesse. Dieu commence par dire à Moïse, qui se pose bien des questions, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » On peut aller partout avec ça. Pas comme des fous imprudents, comme s'il n'y avait rien à mesurer, à programmer, à anticiper. Mais la peur tombe, l'inquiétude se tarit et la route surtout peut être faite. Dieu dit « Je serai avec toi ». C'est sa fidélité sans faille, sans fin qui se dit. Fidélité, je rappelle souvent, c'est un mot peut-être plus évident, avec confiance, pour parler de la foi. Vous voyez, c'est des mêmes racines, tout ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de latin pour voir que fidélité, confiance et foi viennent de la même racine. La fidélité de Dieu avant même la nôtre, c'est ce qui nous permet de faire la route. « Je serai avec toi, dit Dieu. » Et puis, ce quatrième ou cinquième point, sujet d'espérance, se dit dans cette révélation étonnante qui défie toutes nos grammaires, Dieu dit son nom, parce que Moïse quand même se demande comment il va pouvoir communiquer ce qui lui est tombé dessus là. Il va bien falloir raconter au peuple que Dieu s'est révélé, mais quel est ton nom? Alors, bon, les traductions françaises, vous savez peut-être que le texte au départ est en hébreu, les traductions françaises font ce qu'elles peuvent avec cette expression « je suis qui je suis ». Parfois on dit « je serai qui je serai ». Pourquoi? Parce que dans les formes d'équivalence de verbes, en hébreu, le verbe est une forme de futur. Mais en fait, c'est surtout un temps qui se dure, en fait, un temps qui dure. Donc le présent, on peut le rendre aussi « je suis qui je suis ». « Je serai qui je serai ». « Je suis qui je serai ». Faites votre miel avec ça. « Je suis » où tu diras au peuple « je suis » et votre Dieu. « Je suis qui je suis ». Il y a deux choses formidables. Le cœur de Dieu qui se révèle se dit dans le verbe « être ». Nous qui sommes des êtres humains. Dieu se joint à nous se joint de cette façon, peut-être même, j'anticipe un peu, peut-être trop sur l'incarnation du Christ, mais ici même dans le désert, Dieu se dit dans l'être, il n'est pas déjà ailleurs, dans un au-delà, dans une forme de transcendance éloignée, dans quelque chose qui nous observerait, une puissance qui nous dépasse, oui certes, mais il se donne dans un être, je suis, et un être de tout temps, éternel. J'utilise souvent ce mot avec un peu de prudence parce que l'éternité, c'est bien compliqué à penser, et puis on pense souvent l'éternité vers la fin, mais l'éternité, elle a commencé avant. L'éternité nous précède, l'éternité est devant, l'éternité est maintenant. L'éternité de Dieu, c'est le fait qu'il se défait bien de nos chronologies pour se révéler dans l'instant qui compte. L'instant qui compte, c'est maintenant, quand nous sommes les uns à côté des autres et qu'on essaye de se laisser rencontrer par une parole. L'instant qui compte, c'est la terre promise qui est devant nous, que nous souhaitons atteindre. L'instant qui compte, c'est notre origine, le fondement de notre identité, un appel, un amour qui est donné. « Je suis, dit le Seigneur, je suis. »